des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Elisabeth Antebi.
Bonjour. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Jean-Robert Pitt pour l'émission Parcours. Monsieur Jean-Robert Pitt, qui est président de la Sorbonne. Alors, je le présente un petit peu, vous m'interrompez. Bonjour Monsieur Pitt.
Bonjour,
d'abord.
Bonjour madame, merci.
Alors, vous m'interrompez si ça n'est pas tout à fait exact. Vous êtes né en août 49 sous le signe du lion.
Oui, canicule, année de canicule et de bon vin.
Ah oui, parce que vous le découvrirez, notre invité est un grand expert des vins. Alors, il est d'abord un géographe, géographe des vins, du saucisson et de bien des choses, mais aussi un géographe très sérieux qui a passé, bien sûr, l'agrégation 71 et son doctorat.
On passait deux doctorats à cette époque, donc j'ai passé un doctorat de troisième cycle en 75 et un doctorat d'État en 86.
Alors, vous avez été professeur au lycée Chaptal à Paris. Puis très vite, vous êtes parti déjà comme assistant à l'école normale supérieure de Nouakchott en Mauritanie.
Oui, en coopération.
Ça n'est que le début d'une longue série de voyages dont nous reparlerons. Vous devenez bien sûr maître de conférence, professeur à la Sorbonne. Et dès 1981, vous fondez là-bas l'Académie Interage.
L'Université Interage.
Oui. L'Université Interage, oui. Qu'est-ce que c'est ?
Ce sont des cours et des conférences destinées au grand public, donc qui ne mènent à aucun examen, mais qui permettent à ceux qu'ils veulent de se cultiver, d'assister à des cours qui sont, je dirais, comparables à ceux que l'on délivre à nos étudiants du premier âge, mais néanmoins adaptés, légèrement simplifiés et débarrassés de l'appareil d'érudition. Donc ce sont des cours destinés à un public large et cultivé, quel que soit le niveau d'études des auditeurs.
Alors, c'est un de vos grands talents, c'est de faire passer des notions extrêmement ardues en général, car les élèves se rappellent avec, enfin les élèves de ma génération, se rappellent avec quelque désespoir leur cours de géographie. Vous allez nous expliquer peut-être d'ailleurs pourquoi moi j'étais désespérée et que les autres ont moins à se désespérer. Vous l'expliquez très bien dans vos livres. Et enfin, donc, depuis 2003 et après bien des prises de responsabilité dans divers comités et ministères, vous devenez président de la Sorbonne. Alors, ma première question, c'est que vous avez réussi un coup de maître, si je puis dire, parce qu'autrefois, la France exportait, enfin, elle exporte toujours des produits de luxe, les vins que vous aimez tant, les parfums, les mallettes, que sais-je. Et aujourd'hui, grâce à vous, elle exporte un autre genre de produit, la marque Sorbonne. Alors, qu'est-ce que c'est que cette marque Sorbonne, qui est une enclave francophone dans un émirat parlant la langue des affaires, c'est-à-dire l'anglais.
Alors, et l'arabe.
Et bien entendu, l'arabe.
Écoutez, je ne suis pas seul responsable de cette exportation. C'est une volonté aussi du gouvernement des Émirats Arabes Unis d'ouvrir sur son territoire, en l'occurrence sur l'émirat d'Abu Dhabi, une antenne d'une grande université francophone. Et j'ai été contacté il y a 2 ans pour ce projet qui m'a enthousiasmé immédiatement. Que malgré un certain nombre de difficultés, parce que ce n'était pas très très simple comme opération, nous avons réussi à implanter. Les cours ont commencé au mois d'octobre dernier. L'inauguration officielle a eu lieu en novembre, le mois dernier, avec beaucoup d'apparat et de panache à Abu Dhabi même. En présence de notre ministre de l'Éducation nationale français, Gilles de Robien.
Alors, comment ça se passe ? Là, vous écourtez la chose quand même. Ouais. Est-ce qu'on a tort de penser que c'est vraiment une sorte d'apax, si on peut dire, c'est-à-dire des choses absolument étonnantes, extraordinaires.
Oui, c'est très étonnant parce que donc nous avons en fait le temps de signer le contrat, de mettre au point les choses, de trouver des locaux provisoires en attendant des locaux définitifs. Finalement, on a commencé à faire la promotion de notre antenne Paris-Sorbonne à Abu Dhabi seulement au mois d'avril dernier, avril 2006. Et pour la rentrée donc du début octobre 2006, nous avions 170 étudiants, ce qui est une belle performance parce qu'une centaine d'entre eux N'oublions pas que c'est un pays et une région du monde où l'on n'est pas volontiers francophone. Donc, une centaine d'entre eux ne sont pas du tout francophones et sont inscrits dans une année préparatoire où ils font du français intensif, hein, français langue étrangère, à 6 heures de cours par jour et beaucoup de travail personnel. Et 70 sont inscrits en première année de licence dans 6 disciplines différentes, parmi lesquelles la philosophie, la littérature française et comparée, l'histoire de l'art et l'archéologie, la géographie, l'histoire et les langues étrangères appliquées. Et parmi les langues étrangères appliquées, nous enseignons donc l'anglais, l'allemand, l'arabe et l'espagnol.
Pas le latin et le grec.
Ils ont un peu de latin et de grec dans la section littérature française et comparée. Et j'espère qu'au fil des années, nous aurons un peu plus d'étudiants en latin et en grec. Mais pour une première année, avoir 70 étudiants dans ces disciplines, dont il faut signaler qu'elles sont enseignées exactement de la même manière qu'à la Sorbonne de Paris, avec exactement les mêmes programmes, les mêmes enseignants. Aucun enseignant n'a été recruté localement dans ces disciplines. Tous les enseignants sont des collègues de la Sorbonne, dont 7 sont expatriés pour 2 ans, des maîtres de conférences, et les autres viennent faire leur cours, le même cours qu'à la Sorbonne, au cours de mission d'une semaine ou de 2 semaines, et ils concentrent leur cours sur les matinées, donc ils arrivent à faire exactement le même cours. L'enseignement est laïque, mixte, et les diplômes seront exactement les mêmes, organisés selon les mêmes conditions pendant les 2 semestres. Et les étudiants bénéficieront, s'ils réussissent à leurs examens, des mêmes crédits que dans le système européen. Donc à tout moment de leurs études, ils peuvent venir poursuivre leurs études à la Sorbonne, dans n'importe quelle université française ou n'importe quelle université européenne qui a adopté le système européen dit LMD, licence, master, doctorat.
Mais alors, pourquoi ce désir de français, j'insiste, parce que aller jusqu'à ce comble d'apprendre à des élèves en français et l'anglais, moi je trouve ça personnellement, d'abord je vous tire mon chapeau, puis c'est une drôle de performance. Alors pourquoi ce désir ?
Mais vous voyez, les Français sont un peu complexés, ils ont l'impression que leur langue ne va mal, que personne ne la parle, alors qu'en réalité il y a un certain nombre de gens dans le monde, même des gens qui ne la parlent pas très bien ou qui ne la parlent pas du tout, qui sont fascinés par la langue française et tout ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que la langue française, c'est la culture francophone. Et la culture francophone, c'est quelque chose qui passionne beaucoup de gens. Je peux vous dire qu'une partie de l'élite des Émirats arabes unis, qui a été formée pour beaucoup, soit dans des pays arabes comme le Liban, comme l'Égypte, soit surtout aux États-Unis et en Angleterre un peu, est totalement fascinée par la langue française.
J'insiste, qu'est-ce qu'apporte le français, ce qui a longtemps été la langue de la diplomatie ?
Oui.
Est-ce que c'est la précision ? Est-ce que c'est la poésie ?
Je pense qu'il y a, sans doute ces choses-là, mais que tout le monde ne connaît pas. Ça, nous en sommes persuadés quand on aime cette langue, mais je crois qu'il y a derrière tout ce que représente la culture française, tout ce que représente la petite musique française, qui n'est pas tout à fait la même que la musique anglo-saxonne.
Enfin, recevoir quand même dans un pays oriental un géographe du vin et du saucisson,
oui.
C'est quand même assez curieux.
Ah, mais ça m'est même arrivé de parler dans ce pays, comme dans d'autres pays musulmans, du rapport entre l'islam et le vin, qui est un rapport très très passionnant. L'analyse du Coran en matière de vin est très passionnante, puisque comme vous savez, le vin coulera à flot dans le paradis d'Allah, et c'est très intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'il y a eu cette interdiction du vin dans le Coran, qui n'est pas dans toutes les sourates. Il y a des sourates très positives sur le vin et des sourates négatives. Donc moi, ça ne me gêne pas de parler du vin.
Alors pourquoi, selon vous, a-t-on interdit le vin alors que le vin célébré chez les juifs comme chez les chrétiens, comme chacun sait.
Il est célébré chez les musulmans aussi, mais pour le paradis. Donc il est considéré comme une boisson absolument merveilleuse, extraordinaire, mais que l'on interdit aux fidèles. Et je pense qu'il y a un petit manque de confiance qui est fait aux fidèles musulmans, parce qu'effectivement, si on boit trop d'une boisson merveilleuse mais alcoolisée et donc dangereuse comme le vin, on risque de faire un peu n'importe quoi et en particulier de blasphémer le nom d'Allah en se rendant à la mosquée. Donc plutôt que de laisser le fidèle prendre des risques, on a préféré, je dis on, ça dépend si on est croyant ou pas croyant dans la foi musulmane, mais si on est croyant, c'est donc la révélation coranique, mais enfin disons on, avec un grand O, on a préféré interdire totalement la consommation de boissons alcoolisées, de boissons fermentées et alcoolisées aux fidèles, pensant qu'il y avait risque qu'ils ne respectent pas la divinité au moment de la prière.
Alors là, je renvoie, pour ceux qui auraient envie d'aller plus loin, vos analyses sur le vin et le divin. Alors apparemment, pour les uns, le vin conduit au divin, tandis que pour les autres, le vin détourne du divin, si je vous ai bien compris.
Il y a même
compris.
Beaucoup de religions dans lesquelles l'ivresse conduit au divin.
Voilà, oui, ben, le Papa Noé quand même.
Oui.
Donc, vous venez de publier un autre livre tout récemment, pas le dernier, on va reparler du dernier, mais tout récemment, qui s'appelle « Gastronomie française ».
Oui, c'est une
Enfin, pas tout récemment, d'ailleurs.
C'est une réédition d'un livre de 1991,
voilà.
Oui.
Voilà, c'est 1991, mais alors ça a réuni beaucoup de vos textes. Alors, vous sous-titrez d'une phrase un peu plus austère. Géographie culturelle, histoire voilà. du paysage français, qui réunit donc
qui
tous
réunit
vos
donc
textes
l'histoire
anciens.
Du paysage français, voilà, gastronomie pardon. Française et quelques autres, un certain nombre d'autres textes.
Et un très joli texte qui s'appelle « Paysage à voir, à manger et à boire », que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Alors, vous êtes géographe, est-ce qu'on peut parler d'une voracité du paysage?
Pour moi, il y a la géographie par rapport à d'autres disciplines, mais peut-être en proximité avec l'archéologie ou l'histoire de l'art, s'intéresse non seulement aux concepts, aux représentations, aux idées théoriques, mais concernant l'espace, puisque c'est ça notre objet, mais aussi à une perception sensorielle. Je pense que les philosophes ont beaucoup de mal, enfin beaucoup de philosophes ont du mal avec les perceptions sensorielles et sont de purs conceptuels, de purs esprits, ce qui est nécessaire. Mais la bonne géographie fait l'ange et la bête. Elle est à la fois cérébrale et sensorielle. Et pour moi, particulièrement, il se trouve que quand j'étais petit, je voulais être cuisinier. Je m'aperçois, enfin, en réfléchissant un peu à mon parcours, que je me suis toujours intéressé à ce qui passait par les sens, que ce soit la vue, que ce soit l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût.
Vous
et
racontez donc, d'ailleurs merveilleusement bien, dites-en un mot, l'histoire du moule à, pas le moule à gaufre, mais le moule à couglof.
Le moule à couglof de mon arrière-grand-mère.
Pardon, de votre arrière-grand-mère qui vient de Colmar.
Oui, mon arrière-grand-mère, mes arrière-grands-parents maternels sont venus en 1870 d'Alsace. Et mon arrière-grand-mère, donc, qui avait 17 ans à ce moment-là, en 1870, est partie de son village de la plaine d'Alsace avec le moule à couglof, un des moules à couglof familiaux sous le bras, et qu'elle a utilisé, dans lequel on continue dans ma famille à cuire ce gâteau
d'ailleurs,
extraordinaire.
D'ailleurs, vous donnez la recette.
Je donne
Kouglof,
la recette,
carrément.
Oui, parce que c'est une recette qui n'existe plus aujourd'hui, qui est une recette extrêmement...
D'ailleurs, merci, parce que j'adore le kouglof.
Rustique. aujourd'hui, on fabrique en Alsace des kouglof qui sont, et surtout à Paris, des kouglof qui sont tout simplement des brioches avec des raisins dedans. Or, c'est pas ça du tout. C'est un gâteau beaucoup plus rustique, plus ferme, qui est très fondant, mais en même temps croustillant à l'extérieur. Enfin, c'est toutes sortes de choses, de sensations et de bruit même dans la consommation du kouglof qu'on ne retrouve plus dans les kouglof d'aujourd'hui. Donc, j'assume la nostalgie de ce kouglof archaïque, puisque c'est une recette qui date du milieu du 19e siècle et qui venait de mes ancêtres alsaciens.
Au fond, maintenant que vous le dites, vous abordez un peu la géographie en cuisinier.
Oui.
Parce que vous l'abordez. Vous n'hésitez pas d'ailleurs à donner quelques adresses de bons restaurants ou de fabricants renommés.
Actuellement, j'ai la chance, et ça m'amuse beaucoup de faire cela, d'assurer depuis sa fondation la chronique gastronomique du Monde des Religions, qui est un magazine qui paraît tous les deux mois. Et donc, j'essaye d'imaginer une chronique dans chaque numéro sur un mets en relation avec une religion ou un mets vagabond entre plusieurs religions. Et il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on l'imagine. Et je donne une recette applicable aujourd'hui par ceux qui s'intéressent à la cuisine.
Ah, quelle bonne idée pour apprendre les religions. Ça apaiserait.
Oui, c'est un
ça
moyen.
Apaiserait
ça apaise,
les...
Ah oui, c'est un moyen de faire la paix religieuse, c'est certain.
Absolument.
De savoir que le chocolat, par exemple, a été au cœur de la religion aztèque, puis au cœur du catholicisme de l'Espagne du siècle d'or.
Oui,
puis,
apporté par les jésuites, quoi, d'ailleurs. Non
apporté par les jésuites, puis ensuite est passé au protestantisme. Passer au protestantisme du côté des Pays-Bas et du côté de la Suisse, avant de finir dans la franc-maçonnerie avec les triangles de Tobler. Vous voyez, donc c'est cette espèce de vagabond. Vous savez, le chocolat, le Toblerone est en forme de triangle. C'est donc à la fois la forme d'une montagne, une montagne suisse, mais c'est aussi le fait que M. Tobler était franc-maçon et qu'il voulait absolument que son chocolat rappelle. Donc c'est très lié aussi, le chocolat et les petits carrés de chocolat, c'est la solidarité qui est au cœur de l'éthique protestante. Donc ce vagabondage du chocolat d'une religion à l'autre est absolument passionnant.
Nous interrompons quelques minutes et nous allons poursuivre bientôt cette conversation gourmande, géographique et bientôt très sérieuse sur la Sorbonne et les études avec Jean-Robert Pitt, président de la Sorbonne.
Nicolas Poussin et Orphée, la collection privée de Goethe, la gravure de Louis-René Berge, les méditations sur la beauté de François Cheng, les tableaux de Bernard Buffet et de Velikovitch, les œuvres de Pierre-Yves Trémoy, mais aussi Le monstrueux dans l'art ou Bosch et les tentations de Saint-Antoine, Canal Académie vous propose une série d'émissions sur l'art et de réflexions sur la beauté.
Pour Parcours, nous retrouvons Jean-Robert Pitt, président de la Sorbonne. Alors, Monsieur Pitt, nous avons dit tout à l'heure que vous exportiez la marque Sorbonne. Et pourtant, au moment même où vous sortez votre géographie culturelle et gourmande dont nous venons de parler, Quelques mois plus tard, vous nous sortez un pamphlet fort incisif et fort courageux chez Fayard, qui s'appelle « Jeunes, on vous ment, reconstruire l'université ». Alors, quand même, le géographe que vous êtes, je l'ai bien lu dans ce pamphlet, nous raconte que à la Sorbonne, alors vous nous racontez la Sorbonne, c'est assez rigolo, il y a deux pages terrifiantes sur la Sorbonne, sur les locaux, sur tout cela. Et vous dites en particulier, là c'est assez drôle, mais ça montre un peu un échantillon de votre approche, vous nous racontez qu'à la Sorbonne, il y a à peu près 2,6 mètres carrés par étudiant.
Oui.
Alors que dites-vous, pour un poulet de Bresse, ça ne vous échappe jamais, il faut qu'un poulet de Bresse jouisse, apprenez-le, heureux auditeur, de 10 mètres carrés de parcours pour bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée.
C'est tout à fait exact. Sinon, le poulet de Bresse n'a pas la haussée. Je trouve un peu curieux que nos étudiants puissent étudier dans des parcours quatre fois moins importants en superficie. Mais c'est comme ça, c'est la situation de beaucoup d'universités parisiennes, particulièrement les universités littéraires. Et nous en plaignons énormément, parce que je dirais même que c'est miracle que nous arrivions à faire ce que nous faisons dans des conditions aussi dramatiques, parce qu'il n'y a pas que les mètres carrés qui nous manquent, ce sont aussi les crédits, ce sont les postes administratifs, ce sont
les recrutements à vie, les fusions, les...
Oui,
vous énumérez tous les mots.
Oui, tous les mots de l'université française qui ne s'est pas réformée depuis 50 ans, et une institution comme une université, mais je parle de l'université en général en France, aurait dû se réformer depuis bien longtemps, et elle ne s'est réformée que par la massification, c'est-à-dire accueillir davantage d'étudiants, ce qui est très bien en soi, mais on ne peut pas privilégier le quantitatif sur le qualitatif, et incontestablement, c'est ce qu'on a fait en France.
Oui, et alors vous dites une chose d'ailleurs qui, quand on la lit, paraît évidente, comme d'habitude, mais vous dites que depuis 69, je ne savais pas que c'était depuis 69, les universités s'appellent par des chiffres, ce qui est toujours un mauvais signe. C'est-à-dire, non, mais c'est très profond.
C'est très profond. Moi, je me refuse absolument. Enfin, bon, ça m'arrive de dire le numéro de mon université qui est Paris 4. Et puis, beaucoup de gens connaissent sous ce numéro-là, mais je préfère le nom officiel qui est le nôtre, en plus, qui nous ramène aux 750 années d'histoire que nous avons derrière nous, c'est-à-dire Paris-Sorbonne, la fondation en 1257 par Robert de Sorbonne sur la montagne Sainte-Geneviève, là, précisément, où nous sommes installés.
Oui, puis alors, le géographe que vous êtes ne peut pas ignorer que l'université Sancier est à Sancier, ce qui était quand même plus pratique que de savoir le numéro.
Oui, alors Sancier, c'est Paris 3, et le nom officiel de cette université, c'est la Sorbonne Nouvelle, ce qui est un nom un peu curieux que regrette, je crois, un certain nombre de collègues de cette université, parce que vous savez, tout ce qui est nouveau, c'est comme le roman, la cuisine, le nouveau roman, nouvelle cuisine. Bon, ça se démode très très vite.
Il
vaut mieux être éternel que nouveau. Hein.
C'est en général, comme les nouveaux philosophes, ceux qui se sont toujours trompés qui sont nouveaux.
C'est souvent un peu le cas, malheureusement, oui.
Bon, alors est-ce que vous voulez dire que ceux qui, du passé, voulaient faire table rase, puisque c'est un peu ça que vous nous racontez, ont gagné ? Vous qui êtes un optimiste.
Non, je pense que le pire n'est jamais sûr et qu'il y a des choses à faire dans l'université française. Il y a des réformes nécessaires et possibles, difficiles mais possibles. Mais il faut donner pour cela une véritable autonomie aux universités, leur permettre de choisir leurs étudiants, leur donner comme objectif de mener ces étudiants non seulement à de bons diplômes mais à de bons débouchés. Et à partir du moment où on aura fait confiance aux universitaires, on leur aura donné aussi les moyens, et en particulier les moyens financiers. Ça veut dire qu'il faut réfléchir à ce problème, parce que c'est un problème de la gratuité de l'université qui n'a plus de sens aujourd'hui. Nous sommes le seul pays au monde qui pratique ce système qui se veut démocratique, mais qui ne l'est pas du tout. Je pense qu'il y a moyen de réformer l'université et de la rendre réellement performante et de lui permettre d'être en bonne position dans la concurrence internationale, ce qui n'est pas le cas actuellement. Nous sommes en très mauvaise posture dans la concurrence européenne et à plus forte raison mondiale.
Oui, ça, on va y revenir, mais à un moment donné, c'est très intéressant, à l'époque de l'université gratuite, des journaux gratuits, on sait qu'on paye cher la gratuité, tout le monde le sait, les femmes gratuites sont les plus coûteuses pour les hommes. Donc, vous citez cette très jolie phrase de Beuve-Méry, patron du Monde, qui, quand on lui demandait de donner son journal à des gens
aux étudiants
parce qu'ils n'avaient pas d'argent, disait que non.
Non, pour lui, un journal gratuit est un journal qui n'a pas de réalité politique, de personnalité. Ce qui est important doit être payant et doit être payé à son juste prix. Bon, pour un journal, ça me paraît totalement évident. Pour la santé ou pour l'éducation, je pense qu'il faut moduler la participation de l'usager à ses revenus. Mais la gratuité générale me paraît quelque chose de complètement périmé et de dangereux aujourd'hui.
Alors, c'est depuis... On a toujours voulu essayer de donner une autonomie, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, à l'université. En 68, soi-disant, on l'a donné, si j'ai bien compris. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait ? Simplement, parce que, évidemment, les grandes idées ne se font malheureusement jamais. Donc, par petits pas, que faudrait-il faire pour que l'université, déjà, puisse respirer un brin ?
Pas trop petits pas, parce que on n'avance pas beaucoup. Vous savez que quand on fait un petit pas en avant et deux pas en arrière, ce qui s'est malheureusement fait au cours des précédents gouvernements, on ne va jamais très très loin. Donc, il faut faire des grands pas. Et je pense que...
Premier grand pas, si vous aviez quelque chose
mûrs,
à dire.
Les temps sont mûrs. Oui. Les événements du printemps dernier et du CPE ont fait beaucoup évoluer les mentalités. Je suis très surpris de voir tout ce que disent les journalistes, tout ce que dit l'opinion quand on l'interroge par des sondages sur ces questions. Je pense qu'il faut introduire une véritable orientation, appeler la sélection, si vous voulez, des étudiants à l'entrée. On ne peut pas laisser des étudiants qui ont un bac technologique ou un bac professionnel venir s'inscrire dans une université littéraire et aller à l'échec, puisque ce que nous pratiquons, c'est la sélection par l'échec, qui est le pire des systèmes, parce que ça déçoit tout le monde. Nous perdons notre temps pendant des mois, voire des années, avec un certain nombre d'étudiants qui ne sont pas à leur place. Et eux, ce qui est encore plus grave, puisque nous sommes fonctionnaires, on peut se consoler, mais eux perdent leur temps. Et après un échec, bon, quand ça intervient au bout de 2-3 mois, ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas à leur place à l'université. C'est pas dramatique, mais ça laisse un sentiment de frustration et d'échec qui est difficile quand même, dont il est difficile de guérir. Mais quand c'est au bout de 2 ans, 3 ans, voire 4 ans, que les étudiants terminent sans diplôme ou avec un diplôme qui n'a pas beaucoup de valeur, ça c'est dramatique. Donc il vaut beaucoup mieux pousser des jeunes à rentrer dans la vie active, quitte à reprendre des études un peu plus tard quand ils auront davantage ressenti le besoin d'apprendre un certain nombre de connaissances par rapport à leur métier, plutôt que de dire ce qui est formidable, c'est que tout le monde aille à l'université. Ça, c'est un grand pays démocratique et moderne. Non, nous sommes dans l'illusion.
Mais il y a des mots, vous le savez bien, qui sont à la mode. Par exemple, maintenant que le mot tolérance a...
Il y a des maisons pour ça, je ne sais plus.
Il y a des maisons pour ça, bien sûr, c'était Claudel. Aujourd'hui, vous savez que je l'ai dit au professeur de ma fille, et il m'a dit, madame, s'il y a des maisons pour ça, c'est qu'il en faut... C'est comme la culture. Il ne savait pas la phrase de Claudel, il était professeur, donc vous voyez. Bon, mais maintenant que tolérance a pris un petit coup dans l'aile quand même, le grand mot c'est élitisme. Mm-hmm. Alors on vous reproche d'ailleurs aussi pour Abu Dhabi, l'élitisme de l'argent, l'élitisme des gens plus intelligents et des autres moins intelligents. Est-ce que justement le nivellement par le bas n'arrive pas en brandissant des grands mots de ce genre ?
Oui, d'autant plus qu'on est dans l'hypocrisie la plus totale en France, puisque nous avons un système élitiste qui est celui des classes préparatoires et des grandes écoles que tout le monde accepte. Personne ne le remet en cause. Moi, je le remets en cause parce que...
Ah, je crois qu'un ministre l'avait remis en cause.
Il le remet en cause d'une certaine façon. Moi, ce que je dis, c'est que je le remets en cause parce que les élèves des classes préparatoires et des grandes écoles, qui sont évidemment les meilleurs du système secondaire, donc qui ont en général des mentions au baccalauréat et des mentions méritées. Quand on arrive à la mention bien ou à la mention très bien, en général, c'est mérité. Je crois moins, surtout pour le CRU 2006, à la mention assez bien. Mais la mention bien et très bien, je pense que ça permet de sélectionner les meilleurs élèves des lycées qui, eux, vont en général en classe préparatoire. Mais le problème, c'est que la recherche, elle se fait à l'université. Elle se fait dans les universités.
Oui, ça vous insistez beaucoup.
Et ça, c'est absolument navrant que les professeurs des universités et les maîtres de conférences n'aient pas accès à cette élite des élèves et des jeunes Français qui est apte à recevoir non seulement un enseignement digéré, formaté, prêt à être assimilé, mais aussi le questionnement qui naît de la recherche. Et je trouve dommage que l'élite réelle de la France, c'est-à-dire celle qui accède aux postes de responsabilité dans les entreprises, dans la fonction publique, les grands ingénieurs, les énarques, etc., n'est à aucun moment de ses études eu le contact avec la recherche, c'est-à-dire la science en devenir, la science qui se questionne, la science qui n'a pas tous les résultats, la science qui dit sur ce sujet-là, nous avons telle certitude, mais il y a tout ce champ qui n'est pas du tout investi et sur lequel il faut que nous fassions des recherches. Et ça me paraît fondamental. C'est une des grandes forces du système américain ou du système japonais ou du système anglais.
Est-ce que la surdité volontaire, finalement, de vos partenaires, de ceux qui vous écoutent, ne vient pas aussi d'un consensus à droite comme à gauche de former des gens qui ne se posent pas de questions ?
Oui.
Nous le voyons à la télévision, qui pourrait être un merveilleux instrument d'apprentissage. À l'époque du service de la recherche de Pierre Schaeffer, Dieu sait si on en a fait des films extraordinaires, et à l'université. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez quand même un frémissement, comme on dit ? C'est-à-dire, est-ce que vous sentez que quand même, là, on est allé trop loin ? Et qu'il y a une résistance.
Je pense qu'on est allé trop loin et que, mais il n'est jamais trop tard. Il est tard, mais nous pouvons essayer de reprendre les choses. Et je crois que l'université a son rôle à jouer. Il faut lui faire confiance. Il faut que les politiques, de droite comme de gauche, lui fassent confiance. Ça n'est pas le cas actuellement. Et malheureusement, ça n'est sûrement pas assez présent encore maintenant. Mais nous avons encore 4 mois ou 5 mois dans les discours des candidats à l'élection présidentielle du printemps 2007. Et donc, c'est la raison pour laquelle je suis heureux d'être ici aujourd'hui. Comme sur un certain nombre de médias, pour tirer la sonnette d'alarme et dire qu'il y a un grand pays comme la France ne peut pas mépriser, négliger à ce point-là son université dont elle a besoin pour avancer dans le 21e siècle et être réellement, non pas dans une concurrence sauvage avec un certain nombre d'autres pays, mais être à la hauteur tout simplement d'un dialogue en matière culturelle, politique, économique, avec les États-Unis, avec la Chine, avec l'Inde, avec le Japon, avec l'Allemagne, avec l'Angleterre, un certain nombre de pays dans lesquels l'université est sans doute un peu plus à l'honneur que chez nous.
Oui, alors nous allons revenir sur les étrangers, mais je dis quand même, pour apporter de l'eau à votre moulin et pour commencer à faire du lobbying, au fond ça s'appelle comme ça, oui. Auprès de nos candidats, qu'il y a 138, je l'ai appris aussi, 138 dispositifs d'aide aux jeunes, donc on n'en a vraiment pas besoin d'un 139e, que quand on évacue les universités, où déjà à la Sorbonne on faisait l'amour et pas la guerre, on évacue maintenant des matelas, autrefois on le faisait sans matelas, qu'on prône, bien entendu, et nous le savons, les droits et aucun devoir. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'à une époque, un homme d'affaires disait, à l'époque de 68, que les Japonais n'avaient pas eu pendant longtemps de traduction pour le mot droit, parce qu'ils n'imaginaient même pas qu'on ait des droits, ils imaginaient qu'on avait des devoirs. C'est une création toute récente dans la langue japonaise, donc il faudrait peut-être y songer.
C'est très confucéen, en tout cas d'abord penser à ses devoirs, et l'apprentissage de la modestie est quelque chose qui est important en Extrême-Orient et qui nous manque un tout petit peu en France. Quand on nous reproche notre arrogance dans un certain nombre de pays, on n'a pas totalement tort.
Alors, est-ce que vous faites un peu silence, Dieu sait si vous parlez de bien des choses et si vous êtes courageux, mais j'étais surprise de voir que vous ne parlez guère de l'atmosphère des guerres éclairs, comme dans les raves, c'est-à-dire qu'on se réunit du jour au lendemain, ce qui est la technique de la guerre éclair, exactement, donc c'est quand même intentionnel, disons-le tout de suite, parce qu'on le dit rarement. Vous parlez peu aussi de l'influence de la drogue et de la mafia, finalement, à l'université. Vous en parlez, vous dites qu'on s'inscrit pour...
Trop d'étudiants, donc moi j'estime 15 à 20% qui s'inscrivent dans une démarche d'escroquerie à la sécurité sociale.
Voilà, ça faut le dire quand même.
Il faut le dire. Oui. Les droits d'inscription sont de 165 euros, fixés par l'État. Ça vaut vraiment pas cher de se payer un an de sécurité sociale pour 165 euros. Bon, il y a cet aspect-là qui est grave. Ce que vous me dites sur la guerre éclair, oui, ça, on l'a très bien vu pendant le CPE, un certain nombre de mouvements très 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 minoritaires qui tiennent dans les membres tiennent dans les cabines téléphoniques sont parvenus à occuper la Sorbonne, sont parvenus à occuper le HESS, un certain nombre d'universités françaises, et ils ont été le train a été rattrapé en marche par des mouvements qui ont davantage pignon sur rue, je pense au principal syndicat étudiant majoritaire.
Faut voir c'est comme les bolcheviks, c'était la majorité, la minorité qui vient à la majorité.
Il faut voir le nombre d'étudiants qui votent dans les universités. Donc comme il y a 3% d'étudiants qui votent, un syndicat majoritaire, ça représente 1 ou 2% des étudiants des universités. Donc je pense à l'UNEF, qui est le syndicat qui dialogue avec le pouvoir en général, avec le pouvoir politique.
Seulement 1 à 2%.
Et oui, dans mon université, ils sont majoritaires, mais il y a 3% d'étudiants qui votent. Oui. Donc, vous voyez, donc c'est 1,5% de l'ensemble des 26 000 étudiants
donc,
de Paris-Sorbonne.
Donc il y a 98% qui ne sont pas d'accord, quoi,
grosso modo. Qui s'en fichent. Cela dit, c'est de leur faute. Rien ne les empêche de voter. Mais bon, j'aurais beaucoup de choses à dire sur ces élections et ces représentations étudiantes dans les conseils des universités, où on leur demande des choses pour lesquelles ils n'ont strictement
aucune
compétence.
Alors, les étrangers qui sont là-dedans, parce que vous le dites à un moment donné, il y a un étudiant étranger qui est là-dedans et qui ne comprend pas, quoi.
Il y a un certain nombre d'étudiants étrangers qui ont été extrêmement surpris des événements du printemps dernier, parce que cet article de loi sur le CPE était peut-être mal présenté, mais relativement anodin. Et il y a des lois bien plus dures dans d'autres pays. Et puis, il y a des pays où il n'y a pas de loi du tout, où il y a une totale transparence de l'emploi, on peut embaucher, débaucher comme on veut, et c'est pas pour autant qu'il y a plus de chômeurs, je pense, aux États-Unis.
Est-ce que ça va pas beaucoup plus loin ? Est-ce qu'en France, on n'a pas instauré le mépris des vieux ? Cette espèce de truc transgénérationnel, vous imaginez ce mot qu'on a forgé ? C'est-à-dire qu'autrefois, il y avait un héritage un héritage, une transmission, pas une transgénération. On ne comprend pas très bien ce que c'est que cette transgénération. Est-ce que vous le ressentez, vous, en tant que président de l'université ?
Non, pas trop. Enfin, bon, le jeunisme existe à l'université, mais pas trop, trop. Je dirais que bon, y a des tentatives de contestation, mais la hiérarchie universitaire existe. Elle a ses mérites, elle a ses quelques défauts aussi, mais elle est relativement respectée, y compris par les étudiants, au moins les étudiants sérieux.
Beaucoup plus qu'on ne le croit de l'extérieur.
Plus
alors.
Qu'on ne le croit, oui. Et puis un professeur d'université, professeur titulaire de rang A qui fait un bon cours, je peux vous assurer qu'il est respecté. Ça ne veut pas dire quand il fait son cours en première année, il soit écouté par tout le monde. Parce que précisément, il y a un certain nombre d'étudiants qui ne le comprennent pas et qui ne sont pas à leur place. Mais ça, c'est un drame dont ne sont pas totalement responsables les étudiants en question.
D'après vous, à Oxford, à Harvard, dans l'université de Pékin et je ne sais où, ou d'Helsinki ou de Coimbra, il n'y a pas ce genre d'atmosphère ?
Pas du tout, parce qu'il y a une sélection à l'entrée. Ce qui est normal, mais partout dans le monde. Partout dans le monde, enfin, un peu moins dans les pays méditerranéens, qui ressemblent un peu à la France, comme l'Espagne et l'Italie, mais en Angleterre, en Allemagne, dans les pays scandinaves, aux États-Unis, au Japon, partout, en Chine, il y a une hiérarchie des universités et une sélection à l'entrée. On passe des concours d'entrée dans les universités. En France, on estime qu'on passe des concours pour aller dans les grandes écoles, et c'est admis par tout le monde, hein, y compris par des partis de gauche. Il n'y a pas de vraie contestation de ce système, et l'université doit être absolument ouverte à tout le monde, et après réussir ce qu'ils peuvent, ce qui n'est pas très normal. Et en tout cas, ça surprend énormément les étrangers. Et en plus, c'est gratuit, ce qui surprend encore plus les étrangers. Nos étudiants étrangers qui sont dans les universités françaises sont très étonnés de voir qu'ils sont traités gratuitement. Cela dit, ils ne sont pas très bien traités non plus, il faut le reconnaître. Ils sont bien traités quand ils arrivent au niveau du master et du doctorat, où là, ils retrouvent une relation avec la recherche et avec un professeur ou un groupe de professeurs et des laboratoires qui sont du niveau et du style de celles qui existent à l'étranger, mais pas en premier cycle. En premier cycle, nous les traitons formal, et j'en suis navré. Je suis le premier à en être désespéré.
Bon, alors nous allons nous interrompre une minute. Je suis avec Monsieur Jean-Robert Pitt, président de la Sorbonne. Et nous nous retrouvons tout de suite.
Dans sa médiathèque, Canal Académie vous donne rendez-vous avec Alain Decaux. Comment lui est venu le goût de l'histoire ? Quel est son point de vue sur l'objectivité historique ? Quels sont ses combats ? Quelles sont ses fiertés ? Ses projets ? Alain Decaux se livre en toute vérité. Et quand il raconte, on retrouve le Decaux que nous avons tous aimé écouter à la télévision, à la radio. Alain Decaux est sur Canal Académie.
Monsieur Jean-Robert Pitt, que nous retrouvons, président de la Sorbonne, qui a publié un essai incisif que je vous recommande, qui s'appelle « Jeunes, on vous ment, reconstruire l'université ». Alors, on en aborde, après la critique, bien sûr, comment reconstruire l'université. Alors, vous voudriez qu'il y ait une, si j'ai bien compris, une société de la connaissance. Qu'est-ce que c'est que la société de la connaissance ?
Mais je pense que aujourd'hui, ce qu'on appelle la mondialisation, qui en soi n'est ni bonne ni mauvaise, ça fait très peur aux Français. Les Français sont terrorisés par la mondialisation, sont persuadés que ça va les écraser. Or, pas du tout. Ils ont une carte magnifique à jouer, mais dans l'échange avec d'autres cultures. Et cet échange, c'est bien sûr l'échange de connaissances dans toutes sortes de domaines, que ce soit dans le domaine scientifique, dans le domaine économique, mais aussi dans le domaine culturel, dans le domaine littéraire, dans le domaine de la poésie, dans le domaine linguistique. On a mille choses à échanger et nous avons la chance d'avoir une culture vivante, d'avoir une culture qui est appréciée par beaucoup dans le monde, mais dont nous sommes, on ne sait plus très bien quoi faire. On est un peu complexé face à cette culture, face à la francophonie aussi. Or, on a tort. Peu importe de dire qu'il y a 100 millions ou 200 ou 500, comme dit Maurice Druon, 500 millions d'habitants de la planète qui parlent le français plus ou moins bien, c'est pas la quantité qui compte. Il y a beaucoup plus de gens qui parlent l'anglais, mais c'est pas la quantité qui compte. Ce qui compte, c'est que nous soyons dans un monde d'échange, un monde pluriculturel.
Et non pas métissé, je suppose, puisque le métissage, on y perd ses qualités en général.
Pas forcément. Oui. Le métissage n'a pas que des inconvénients, et nous allons délivrer un doctorat honoris causa au président du Sénégal, Abdoulaye Wade, vendredi prochain, le 15 décembre.
C'est un échange, c'est pas un métissage,
oui. Il est dans l'héritage de Senghor, de Paul Cédar Senghor. Moi, le mot métissage ne me choque pas, d'ailleurs, mon épouse est japonaise, et
oui,
nous avons une
Senghor
fille
qui est franco-japonaise,
avec deux cultures.
Votre épouse a deux cultures, ce qui n'est pas tout à fait la même chose
que
ce qu'on appelle le métissage, qui est une sorte de melting pot.
Non, je crois qu'on peut être fier de son identité, voilà, celle qu'on a héritée de sa propre éducation, mais laquelle peut être extrêmement variée, surtout aujourd'hui,
où
il y a de plus en plus de jeunes qui sont à cheval sur plusieurs cultures, mais on peut d'abord avoir plusieurs cultures,
voilà.
Et on peut aussi prendre le meilleur de chacune d'entre elles, et dans cet esprit-là, dans un esprit d'échange et de partage de ce qu'il y a de meilleur dans les cultures, je crois que nous avons beaucoup à apporter au monde, de même que nous avons beaucoup à apprendre de la culture chinoise, de la culture américaine, de la culture brésilienne, et qu'il faut aller regarder dans l'assiette du voisin, c'est ça aussi
Dans cette définition, tout à fait, oui. C'est parce que je pensais à l'aspect métissage, perte de repères...
Non, pour moi c'est au contraire un enrichissement.
Voilà. Donc ça c'est intéressant que vous
le définissiez. Pour moi, la diversité culturelle de la planète est une fantastique richesse, et en tant que géographe tourné vers les problèmes culturels, ça m'intéresse énormément, et ce qui est intéressant, c'est précisément la diversité, non pas tournée vers la défense d'identités enfermées dans des barrières et dans des frontières, mais une diversité partageuse, une diversité qui échange comme notre langue, finalement, notre langue française, est le résultat même de tous ces échanges avec les différents peuples qui se sont succédés sur notre territoire. Donc nous avons ce vieux fond pré-celtique, le fond celtique, le fond romain et grec, le fond germanique, et tout ça forme une langue qui est admirable et qui a bénéficié de tous ces apports au cours de l'histoire.
C'est
vrai dans toutes sortes de domaines culturels.
Et arabe d'ailleurs avec le zéro.
Et ça n'empêche pas d'avoir une identité, c'est en évolution.
Oui.
Et l'évolution, elle ne se fait pas. Je pense qu'elle ne peut pas se faire lorsqu'on l'enferme. C'est comme l'oiseau, il chante mieux quand il est dans la nature et dans l'échange avec ses partenaires.
Ah, autrefois, on crevait les yeux des oiseaux pour qu'ils chantent mieux.
Vous voulez crever les yeux de la culture française ? Non.
Non, moi, je ne veux pas, c'est le contraire. Je veux lui ouvrir les yeux comme vous. Oui, alors, il y a un petit paradoxe quand même, c'est qu'à un moment donné, lorsque vous dites, et fort justement, que certains s'aventurent dans des filières condamnées, comme la filière littéraire, mon Dieu, est-elle condamnée ? Parce que Jacqueline de Romilly, dans un entretien qu'on avait un jour, je lui disais, la plupart des parents disent « à quoi ça sert ?»« À quoi ça sert, madame, le latin, le grec, la culture, les mathématiques, etc. » Et elle disait « oui, bien sûr, si on considère l'école comme une valeur marchande où on vient acheter de la connaissance pour la revendre à la sortie, eh bien, en effet, ça ne sert à rien. Mais ce n'est pas ça, l'enseignement. »
Je pense que les humanités, auxquelles le latin et le grec appartiennent, mais la philosophie, la littérature, etc., les humanités, ça sert à développer l'esprit critique, ça sert à développer l'intelligence, tout simplement. Et à partir du moment où on a cet esprit critique, cette intelligence, cette capacité à apprendre des choses nouvelles, on peut appliquer ces valeurs fondamentales à n'importe quel métier. On peut ensuite se retrouver comptable, se retrouver juriste.
Oui.
On peut toujours apprendre des techniques.
Interdire ou détourner de la filière littéraire.
C'est une absurdité. C'est une absurdité totale.
Oui.
Et quand on voit le succès qu'ont ces disciplines, par exemple, dans une université comme Oxford ou à Princeton ou Harvard, on se dit qu'on est bien bête. Nous, quand je vois le formidable succès de la littérature française à l'université de Kyoto, je me dis, nous serions bien bêtes, nous, d'abandonner cela. Et il est vrai que on peut très bien faire des études littéraires et ensuite exercer un métier qui n'a pas de rapport direct avec ces études littéraires, mais qui nourrira. Les études littéraires vont nourrir ce métier et vont donner de l'imagination. Parce qu'au fond, la culture, ce que ça apporte, c'est la capacité à imaginer des choses nouvelles. Et dans tout métier, métier, quel qu'il soit, on a besoin d'être imaginatif. Or, si l'on apprend uniquement, je dirais, de la technologie ou des pratiques professionnelles sans les nourrir de culture, on est vite bloqué dans son évolution professionnelle. Et c'est ça qui est dommage. Je regrette, d'une part, que nous ayons trop d'étudiants dans nos universités qui n'aient pas la capacité de profiter des enseignements de culture générale et que, par ailleurs, dans l'enseignement supérieur technologique ou professionnel, on n'insiste pas assez sur la culture générale qui est absolument indispensable parce que le métier que l'on fait aujourd'hui, lorsqu'on sort de l'université ou de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement secondaire, est probablement très différent de celui qu'on fera dans 20 ans, dans 40 ans ou dans 50 ans.
Surtout
donc il faut avoir la capacité d'apprendre de nouvelles connaissances, de se former tout au long de la vie pour précisément faire évoluer son métier, sa profession et être utile à la société au lieu d'être assisté. Parce qu'actuellement, nous préparons trop de futurs assistés.
Que personne n'assistera plus d'ailleurs. Parce que
personne n'assistera plus parce qu'on n'aura pas les moyens les assister. Oui. C'est bien des drames du monde de la société contemporaine qui refuse de regarder les choses en face et qui au fond néglige la responsabilité, n'éduque pas le sens de la responsabilité de sa jeunesse. Et ça, c'est ce qui est de criminel. Quand je dis jeune, on vous ment sur ce sujet-là. En disant, ne vous inquiétez pas, de toute façon, la société vous prend en charge.
Et à la veille
d'une campagne présidentielle, ça aussi, c'est important de ne pas dire aux gens, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Ça n'est pas vrai. Occupez-vous d'abord de vous-même et on va vous aider. Et tous ensemble, on va essayer de trouver des formes de solidarité, des formes de vie en société qui soient justes et qui soient en même temps exigeantes. Le mot exigence, qui est un mot extraordinairement démodé aujourd'hui et qui apparaît comme ringard dans le langage populaire, est indispensable. Il n'y a pas de réussite et de bonheur sur Terre, si je puis dire, sans exigence. C'est indispensable. Et si l'école, et à plus forte raison l'université, ne mettent pas cette exigence au cœur de leur système, nous allons à la catastrophe.
Alors, Monsieur Pitt, une dernière question impertinente, si vous le permettez. Vous écrivez dans Paysages à voir, à manger et à boire, l'Académie française vit sans géographe alors qu'elle élit régulièrement des historiens. Souhaitons que cela change et qu'un jour les géographes écrivent assez joliment pour y être accueillis. Est-ce un vœu pieux, un appel du pied ou une constatation ?
Non, c'est une constatation. L'Académie des sciences aussi a eu des géographes, je pense à Emmanuel de Martonne ou Raoul Blanchard, et c'était, je crois, les derniers. L'Académie française, à ma connaissance, n'en a jamais eu, même si quelqu'un comme Éric Orsenna est pratiquement un géographe dans un certain nombre de ses approches.
Vrai,
et son dernier livre sur le coton est un livre de géographie, mais d'autres aussi. Mais je n'accuse personne. Je pense que c'est de la faute des géographes qui n'ont pas su peut-être dire avec assez de talent l'intérêt que présente leur discipline pour le monde contemporain. Je crois que nous avons besoin de géographie. Je pense même qu'une partie des malheurs du monde, des guerres du monde, tiennent à l'ignorance géographique. Si les princes de ce monde avaient une meilleure culture géographique, il y a un certain nombre d'actions qu'ils ne feraient pas, ou en tout cas qui seraient différentes de celles qu'ils entreprennent. Il y a des actions militaires même qui demandent beaucoup de finesse avant d'être entreprise, et en particulier beaucoup de culture géographique, connaître les réalités, et pas seulement la forme des montagnes ou le climat. Le général hiver, c'est bien connu, mais il n'y a pas que ça. Je crois que la réalité humaine de la planète, la géographie humaine de la planète est fondamentale quand on veut faire du commerce, quand on veut faire de la diplomatie, quand on veut tout simplement vivre ensemble. Il faut connaître l'autre pour vivre ensemble, et la géographie, ça aide à connaître l'autre et l'ailleurs. Et nous avons besoin de ça dans le monde contemporain. L'autre et l'ailleurs.
Parole de quelqu'un qui a exporté la marque Sorbonne à Abu Dhabi. Merci Monsieur Jean-Robert Pitt,
merci
président de la Sorbonne, et à très bientôt.